OK, on continue notre survol des 66 livres de la Bible. On est encore dans Exode. On avait vu la première partie la semaine dernière. Alors, on va aujourd'hui continuer. Juste pour regarder, dans le fond, que l'Exode est divisé en trois principales parties. On l'avait vu un petit peu la semaine dernière. L'Exode comme tel, là où le peuple de Dieu était en Égypte et le Seigneur les a fait sortir de l'Égypte par les plaies et tout cet espace-là avec le pharaon. Donc, on a l'Exode qui nous montre la puissance de Dieu. On a au chapitre 20 le fameux décalogue. Alors, on a la loi qui est très intéressante à étudier aussi. Donc, qui parle plutôt de l'aspect sainteté de Dieu. Et on a le tabernacle qui nous parle de la sagesse de Dieu. Donc, on était rendu là. Donc, on va regarder un peu les trois grandes parties. C'est sûr que ce n'est pas une étude exhaustive du livre de l'Exode, mais au moins, ça nous donne les trois grandes choses à retenir. Quand on parle de l'Exode, il faut se souvenir que c'est la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. C'est aussi Dieu qui donne la loi ou le décalogue à son peuple. Et c'est aussi à partir du chapitre 25 où Dieu commande. C'est très significatif. Dieu commande à Moïse de construire un tabernacle selon le modèle que lui prescrit tout en détail. Autrement dit, il n'a pas fait ça n'importe comment. Là. Il a fait ça selon Dieu. Et c'est pour ça que c'est intéressant de l'étudier, parce que c'est une partie du livre de l'Exode qui parle beaucoup de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, mais sous forme symbolique. Tout le tabernacle, c'est du symbole de Christ. Alors, quelque part, plus on l'étudie, plus on le trouve intéressant, et plus, si on l'a compris, plus on a de la facilité à bien interpréter, comme par exemple le livre d'Hébreux et plein d'autres endroits dans la Bible où on peut mentionner les affaires du propitiatoire puis les affaires de même. Alors, on va commencer par la première section qui est l'Exode proprement dit, où le peuple d'Israël, Dieu a voulu que son peuple sorte d'Égypte après 400 ans. Il lui avait dit qu'il resterait là 400 ans et qu'après 400 ans, il les ferait sortir. Donc ça va du chapitre 1 au chapitre 18. Alors, il y a des choses à l'intérieur de cette section-là, des choses nouvelles pour la nation d'Israël. Alors, Israël trouve dans l'Exode, autrement dit sa sortie d'Égypte, une vie nouvelle et un nouveau calendrier. Exode, chapitre 12, verset 2. « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Alors, il est en train de donner un nouveau calendrier au peuple d'Israël. Pour eux, le premier mois, ça tombait. Alors, c'est très intéressant de noter ça. Donc, des choses nouvelles pour la nation d'Israël, une nouvelle vie et un nouveau calendrier. Deuxième chose, Israël trouve une nouvelle liberté. Exode 13, verset 3, Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. » Aussi, Israël trouve une nouvelle communion. Exode 12, verset 14. « Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Dans Exode 12, c'est la partie où le Seigneur commande le fameux le repas de la Pâque. Et le repas de la Pâque, c'est intéressant de voir que quand Jésus est venu sur la terre, qu'il voulait faire la Pâque, il faisait référence à ça. Là. Alors, ça recule de loin. Aussi, Israël trouve une nouvelle assurance dans Exode 6, versets 7 et 8. Il dit, « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Donc, des choses nouvelles pour la maison d'Israël, mais aussi des leçons concernant l'Égypte. On sait que l'Égypte, dans les Écritures, est souvent symbolique du monde. La sortie d'Égypte, c'est l'équivalent pour nous autres de la sortie du monde. C'est de comprendre le symbolisme. Alors, c'est vraiment une manifestation de la fausseté de l'idolâtrie. Dans Exode 12:12, ça dit « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, puis des hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, je suis l'Éternel. » Très intéressant, la première fois que tu prends conscience de ça, c'est que les 10 plaies d'Égypte représentaient les... Parce qu'eux, il y avait des plaies... Mais ce que Dieu a choisi comme plaies, c'était des choses pour démontrer que le Dieu d'Israël était plus fort que tous les dieux d'Égypte. Il faudrait que tu les prennes un par un, les dieux d'Égypte, là. Et il y avait un aspect ou un symbole d'un dieu d'Égypte que Dieu présentait avec la plaie pour démontrer que le dieu d'Israël est plus fort que tous les dieux d'Égypte. Alors les dieux d'Égypte, on faudrait toutes les nommer, puis savoir que pour les Égyptiens, ça représentait, la fertilité, ça. Et ils démontraient par ça que Dieu était plus puissant que tous les dieux d'Égypte. Ça parle aussi, bien entendu, de la folie du péché et de la résistance à Jéhovah. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu voies ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. » Donc l'Égypte, dans les Écritures, c'est important de se souvenir que c'est un type du monde, c'est vraiment, ça représente le monde dans le sens moral. Quand on parle de nous, qu'on sort du monde, c'est l'équivalent du peuple d'Israël qui sortait d'Égypte pour l'époque. Donc, c'est un type du monde dans différentes facettes, dans sa prospérité et dans son pouvoir. Hébreux 11, versets 24 à 26, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est là qu'on voit les liens qu'il y a entre le Nouveau Testament et l'Ancien. On est dans le Nouveau Testament, là, on est dans l'Hébreu, et on parle que Moïse avait les yeux fixés sur la rémunération, puis il avait eu la chance, il était le fils de la fille du Pharaon, il aurait pu avoir une vie dans les délices, et dans la richesse, et dans la puissance, et dans tous les plaisirs du monde, et il a refusé à ça, parce qu'il a... Alors, dans sa prospérité, dans son pouvoir, c'est l'Égypte représente un peu comme, pour nous, c'est comme une image du monde. Et aussi dans la question de la sagesse mondaine et de la fausse religion. Exode 8, verset 7. « Mais les magiciens en firent autant par leurs enchantements, ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. » Alors, dans le livre de l'Égypte, on voit que Dieu envoyait des choses, mais que les magiciens, jusqu'à un certain point, ont été capables de reproduire par leur magie et par le service à Satan. Mais il est arrivé un moment où ils ne pouvaient pas créer la vie. Alors, et aussi, la sagesse représentant le prince despotique. Un despote, c'est quelqu'un qui domine, mais qui domine avec une grande puissance et qui ne tient pas compte de ce que le peuple veut. Un despote, c'est un dictateur de la ligne dure, comme on va dire. Donc, le pharaon représente un peu l'équivalent pour nous de Satan. Alors, c'est vraiment une figure de Satan. Aussi, l'Égypte représente l'organisation et les principes de force, d'ambition et de plaisir du monde. Quand on parle de l'Égypte, aussi dans sa persécution du peuple de Dieu. L'Égypte persécutait le peuple de Dieu. Au début, on sait que quand ça a été l'époque de Joseph, tout allait bien. À un moment donné, ça s'est gâché. Et là, les Égyptiens se sont mis à maltraiter le peuple de Dieu. Et on le voit dans Deutéronome 6. Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifient ces préceptes, ces lois, ces ordonnances que l'Éternel, notre Dieu, vous a prescrits? Tu diras à ton fils, nous étions esclaves de Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a fait sortir de l'Égypte par sa main puissante. L'Éternel a opéré sous nos yeux des miracles et des prodiges, grands et désastreux, contre l'Égypte, contre Pharaon et contre toute sa maison. Et il nous a fait sortir de là pour nous amener dans le pays qu'il avait juré à nos pères de nous donner. Aussi, c'est vraiment une image du jugement, dans la chute par le jugement divin. Exode 15, versets 4 à 7. Il a lancé dans la mer les chars de Pharaon et son armée. Ses combattants d'élite ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts. Ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Et on voit à l'intérieur de ça aussi les plaies d'Égypte qui sont des tribulations, les jugements et la destruction du présent système. Ça comprend aussi des leçons qui concernent Dieu. Dans l'Exode, on a l'unité de mesure de la puissance de Dieu pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Comme par exemple, on lit dans le livre de Michée, au chapitre 7, versets 15 à 17, « Comme au jour où tu sortis du pays d'Égypte, je te ferai voir des prodiges. » Il est en train de leur rappeler, comme ça s'est passé dans le temps que je t'ai fait sortir d'Égypte, je vais t'en faire voir encore. Les nations le verront et seront confuses. Avec toute leur puissance, elles mettront la main sur la bouche. Leurs oreilles seront assourdies. Elles lécheront la poussière comme le serpent, comme les reptiles de la terre. Elles seront saisies de frayeur hors de leur forteresse. Elles trembleront devant l'Éternel, notre Dieu. Elles te craindront. Quand il dit « Je te ferai voir des prodiges », les prodiges, quels sont les prodiges que Dieu a fait voir à son peuple à l'époque quand il les a fait sortir d'Égypte? Il y en a plusieurs, on en nomme ici. Le prodige du jugement. Donc, les fameuses 10 plaies. Dieu qui a permis que le peuple de Pharaon rentre dans la mer, il croyait aller les rejoindre, puis il croyait être capable de les ramener. Dieu a permis qu'il rentre dans la mer, puis qu'après que le peuple d'Israël était passé, la mer s'est reformée, puis se sont toutes faites noyer. Comme on se souvient. Donc, c'est un prodige de jugement. La manière dont Dieu juge est parfaite et se fait d'une façon très sage et très intelligente. Prodige de grâce aussi, parce que quand on se souvient des poteaux, des linteaux, où Dieu disait, oui, je vais envoyer la mort sur le pays, mais ceux qui vont avoir pris du sang, qui vont avoir mis sur les poteaux et les linteaux de leur maison, eux, je vais passer par-dessus. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas une image de la grâce? C'est exactement un prodige de grâce. Donc, l'exemption du jugement et de la mort par le sang. Prodige de puissance. Traversée de la mer Rouge. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Les 10 commandements de Dieu ». Je me souviens, quand j'étais jeune, j'avais à peu près 10 ans à l'époque, je m'en souviens. Ils nous avaient pris tout le collège au complet. Je pense que c'était à partir du secondaire. Ils nous avaient tout emmené au cinéma Bijoux. Je m'en souviens encore du petit cinéma Bijoux. On descendait en rein, là, puis ils nous avaient emmené voir les 10 commandements. Mais quand tu es jeune, là, puis tu sais pas comment ça marche le cinéma, là. Elle m'a dit une affaire, tu t'assoyais, tu voyais la mer s'ouvrir. Le peuple qui traversait, puis qu'après ça, ça tombait. C'était bien quand même fait pour l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont capables de faire mieux que ça. Mais pour l'époque, là, on n'était pas très habitués à voir des choses aussi spectaculaires. Alors, un prodige de puissance. On voyait que Dieu était extrêmement puissant pour être capable de faire une chose pareille. Prodige de direction, parce que quand le peuple a continué à sortir d'Égypte, Dieu permettait qu'il y ait un pilier de feu et un nuage, donc de jour, la nuit, ça devenait du feu, et c'était pour les diriger, parce que c'était pas évident. Après ça, il y avait un prodige de provision, même s'il était dans le désert, Dieu a quand même permis qu'il y ait la nourriture et qu'ils aient l'eau qui est sortie du rocher. Ensuite, on a un prodige de fidélité. Dieu, là-dedans, a toujours été très fidèle. Et un prodige de condescendance. Quand on parle de condescendance, c'est quelqu'un qui est très puissant et qui s'abaisse vers toi pour être bon envers toi, alors qu'il n'y a pas de comparaison possible entre la créature qui est visitée et le Créateur. Donc, c'est un prodige de condescendance. Dieu, qui, dans sa bonté, vient condescendre vers son peuple. Alors, on peut aussi voir un parallèle de cette unité de mesure de puissance de Dieu pour l'Église dans le Nouveau Testament. Autrement dit, on a l'équivalent de ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Éphésiens 1, versets 17 à 21. « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. » Donc, on continue dans notre série de prodiges, prodiges de jugement. Donc, sur le péché, le renversement de Satan, prodiges de grâce, le sang de Christ, prodiges de direction, le Saint-Esprit, prodiges de provision, un peu comme on le disait tout à l'heure dans 2 Pierre, 2 Pierre chapitre 1, verset 3, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Prodige de fidélité, l'alliance trinitaire, prodige de condescendance, le Saint-Esprit qui vient habiter le croyant. » Donc, il y a quelque chose qui a un parallèle à faire entre ce que Dieu fait pour son Église dans le Nouveau Testament avec ce que Dieu a fait pour son peuple en le sortant d'Égypte dans l'Ancien Testament. Très intéressant de voir le parallèle qui est très intelligent. Donc, on va passer au point D, l'Exode et l'Évangile. Donc, ici, quand vous voyez le titre, c'est « Comparaison et contraste ». Donc, si tu prends l'Exode et tu la mets en parallèle avec l'Évangile, il y a des choses qui se comparent et il y a des choses qui sont des contrastes. Il y a des choses qui se ressemblent et des choses qui se contrastent. Donc, quand on regarde les comparaisons, les deux parlent de délivrance. Les contrastes, on voit que le sang d'un animal versus le sang précieux de Christ. Alors, dans l'Ancien Testament, c'était qu'il fallait que tu prennes une brebis, telle date, il fallait que tu lui tranches la gorge, et il fallait que tu le fasses retirer, il fallait que tu le manges en telle date et telle date. Et tout cela, c'était des références au Christ à venir. Donc, le sang, dans l'Ancien Testament, c'était le sang d'un animal. Dans le Nouveau Testament, c'est le sang de Christ. Le point central, c'est la Pâque dans l'Exode. Et dans l'Exode, c'était vraiment Israël seulement qui sortait d'Égypte. Tandis que dans l'Évangile, la différence, c'est que c'est toutes les nations. Dieu faisait en sorte qu'il faisait sortir les siens d'un petit peu partout dans le monde, de n'importe quel pays. Et c'était pas une question d'âge, c'était pas une question si tu étais israélite ou non. C'était une question qui choisissait souverainement ceux qui étaient pour sortir ou non. Et comme comparaison aussi, on sait que l'Exode, c'était une commémoration. On lit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, « faites disparaître le vieux levain. Je ne sais pas si vous vous souvenez du passage dans Exode où on parlait, quand ils prenaient la Pâque, là, il fallait qu'ils fassent disparaître le vieux levain. Et les Juifs qui font encore la Pâque aujourd'hui sont extrêmement... Ils feront une attention particulière à quelqu'un qui prenne le repas de la Pâque, là, pour eux, là, qui n'ait pas de levain de la maison. Quel est le symbole du levain dans les Écritures? Le mal. Il fallait pas qu'il y ait de mal. Il fallait pas qu'il y ait de levain dans la maison. C'est ça que ça dit dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Il faut vraiment que tu fasses le lien entre ce qui est dit dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, et avec Christ, la question du levain. Pas pour rien que quand on prend le repas du Seigneur, c'est du pain sans levain. Alors, ça vient parler de c'est un symbole du mal, à quelque part. Il ne faut pas qu'il y ait du levain dans ton pain, sinon c'est comme si tu disais que le corps de Christ avait du péché en lui. C'est ça qui est le symbole. Alors, les effets dans les contrastes, on voit que dans l'Exode, c'est une délivrance physique versus une délivrance spirituelle dans le Nouveau Testament. Nous, on ne sort pas du monde de façon physique, mais on sort de l'Égypte spirituelle, du monde contrôlé par Satan. Dieu nous en sort. Donc, c'est une délivrance qui est aussi éternelle, une délivrance vers Canaan, terrestre, versus vers le ciel. Alors, eux autres, c'était une délivrance pour Canaan terrestre. Ils s'en allaient vers Canaan, une terre physique, tandis que nous, c'est une délivrance, on sort du monde pour s'en aller dans notre destination finale, qui est vraiment le ciel. Donc, on est rendu, on a encore 5 minutes, on va prendre la deuxième point, qui est la loi. On va essayer de finir la loi ce soir. Si on n'a pas fini, on le finira la semaine prochaine. La loi, donc, ça va du chapitre 19 au chapitre 24. Il n'y a pas juste la loi morale dans cette section-là de l'Exode. Il y a la loi morale au chapitre 20. Mais après ça, Dieu a donné à son peuple toutes sortes de lois qui étaient dans le but de les aider à marcher. Donc, il y avait la loi morale qui était les 10 commandements, mais après, il nous a donné d'autres sortes de lois. Donc, Israël avait maintenant une nouvelle condition, qui était la liberté, et une liberté sans loi. C'est la licence ou le désordre moral, l'anarchie qui entraîne une liberté sans contrôle. La responsabilité sans liberté, c'est l'esclavage. Et la liberté et la responsabilité vont ensemble. Dans l'Exode, Israël accède à la liberté. Avec le don de la loi, Israël accède à la responsabilité. Intéressant à tout relire ça et à réfléchir à ça et à méditer là-dessus. Donc, c'est important de voir que dans cette section-là, du chapitre 19 au chapitre 24, il y a la loi dans ses 3 parties. Très intéressant. Les 10 commandements qu'on appelle la loi morale, qui est surtout mentionnée dans le chapitre 19 et dans le chapitre 20, on sait qu'Exode 20, c'est la loi comme telle, Dieu dit. Ensuite, il y a les jugements, qu'on appelle les jugements, du chapitre 21 à 23. Donc, Dieu donne des jugements ou des directives ou des lois concernant la vie sociale du peuple après leur sortie d'Égypte. Et ensuite, il y avait des ordonnances qu'on appelle, c'était des lois concernant la manière d'adorer Dieu. Alors, autrement dit, Dieu venait leur donner des règles, comment se comporter après leur salut, à la fois dans la vie sociale et à la fois dans la vie religieuse, la vie d'adoration. Donc, la loi n'est pas une nouvelle alliance, mais un développement de l'alliance abrahamique. Exode 19, verset 4 à 6. « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Où qu'on voit ça, vous êtes un sacrificateur, nation sainte.
C'est dans Hébreu. Hébreu.
Ou dans 2 Pierre. OK. Donc, à quelque part, on voit que beaucoup d'expressions qui sont mentionnées dans l'Ancien Testament sont redites dans le Nouveau Testament. Donc, la foi était la base de l'acceptation d'Abraham par Dieu. On le voit, par exemple, dans Genèse 15, verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. La part d'Abraham à garder l'alliance était la marche et la sincérité dans la foi. Genèse 17, versets 1 et 2. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Donc, la raison pour laquelle Israël fut amené sous la malédiction de la loi fut leur basculement de l'emphase mis sur les œuvres au lieu de la foi. Ils péchèrent par présomption et par auto-assurance. Autrement dit, c'est quoi le problème? C'est qu'ils ont cru que la loi leur avait été donnée pour gagner leur ciel, autrement dit. Ils ont pas pris la loi comme une règle de vie, comme un aide pour mieux se comporter. Ils ont pris la loi comme pensant que c'était le moyen pour aller au ciel. Alors c'était vraiment, comme on dit dans Romains 10, versets 2 à 4, « Je leur rends témoignage, » lorsqu'il y a Paul qui parle de son peuple, il dit « Je leur rends témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la foi, de la loi, pour la justification pour tous ceux qui croient. » Autrement dit, tu es en train de leur dire que tu ne gagneras pas ton ciel en essayant d'obéir aux 10 commandements. Tu vas gagner ton ciel en sachant que c'est un autre qui l'a fait à ta place. C'était le seul qui était capable de le faire à ta place. Vous autres, quand Christ est venu dans Matthieu 5 à Matthieu 7, le sermon sur la montagne, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les Juifs de l'époque pensaient qu'ils obéissaient à la loi. Les pharisiens, la loi, suivaient la loi. Mais ils pensaient d'être sauvés par ce moyen-là, alors que c'était par la foi. Alors, ils ont confondu les œuvres avec la foi. Bon. On va arrêter là pour aujourd'hui. On finira ça la semaine prochaine.